Et c'est Sigrid Brinkmann qui vous dit bonjour. Pour la 40e édition de Litteramour, j'ai pris rendez-vous avec la jeune germaniste française Alice Lacoula-Barthe. Nous sommes au centre Marc Bloch, un centre de recherche franco-allemand en sciences sociales et humaines à Berlin. Nous allons parler de Einhaufen Dollarsteine. Le titre pourrait être « Un paquet de dollars ». C'est un roman de Esther Düscherel qui est poétesse, essayiste, auteure de récits. Le roman est paru en octobre 2024. Vous en avez traduit deux longues passages en français. C'est la première fois que nous nous rencontrons et je voudrais bien savoir, de Bicon, habitez-vous à Berlin et sur quoi faites-vous des recherches ?
Merci beaucoup pour votre invitation. Pour commencer, je me suis installée à Berlin pour la première fois en 2016 et j'ai fait mon master en fait à Berlin de 2016 à 2018 et puis je me suis réinstallée au moment du Covid. Et depuis, je suis principalement à Berlin et je travaille sur les récits d'exil de langue allemande dans le contexte de la crise des réfugiés. Voilà, et donc c'est pour mes recherches principalement, mais pas que je me suis installée à Berlin.
Et comment avez-vous connu Esther Düscherel ?
C'était pendant le Covid. En fait, une amie commune m'a proposé pour traduire un petit texte d'Esther qui portait sur le football pour un éditeur algérien, Barzac. Et en fait, on s'est rencontrés par Zoom d'abord. J'étais enceinte et Esther m'a ensuite invitée à son anniversaire, ce qui fait qu'on est devenus amies et que j'ai pu lire assez rapidement avant sa parution Einhaufen Dollarscheine.
Ce roman était sur la shortlist du prix du Salon des livres de Leipzig au printemps 2025 et il a peut-être une chance d'être également sélectionné pour le prestigieux prix du livre allemand à Francfort. Peut-être il va même gagner ce prix. Qu'appréciez-vous particulièrement dans ce livre ?
Je trouve que quand on connaît Esther, on entend son ton très particulier, cette manière de raconter une histoire qui est vraiment exceptionnelle. Et c'est ce que j'ai aimé dans le livre, en fait. Voilà, c'est puis toutes les émotions que provoque le livre, qui fait passer de l'humour à des choses beaucoup plus sérieuses et tristes. Et c'est un livre qui contient énormément de choses et qui m'a captivée. Je l'ai lu vraiment très rapidement et j'arrivais plus à le lâcher, en fait.
Le roman s'ouvre sur une invitation de définir les relations familiales. On remarque une certaine impatience. Veuillez clarifier qui est lié à qui ici. Vous êtes moi, la tante et la sœur, n'est-ce pas ? Chaque lecteur, chaque lectrice peut imaginer lui-même, elle-même, les réponses de la narratrice qui est à la fois tante et sœur et la voix qui pose les questions. Parfois du genre « je sais tout », elle reste anonyme. Elle pourrait appartenir à un Allemand moyen ou à une fonctionnaire qui doit donner des informations sur les revendications légitimes de la narratrice juive et de sa famille. Le roman met en scène plus de 60 personnes. Les lieux de l'action sont Berlin, Rome, Chicago, Philadelphie, Heringen an der Werra, Heppenheim an der Straße, donc des lieux beaucoup plus petits. En tout, il y a 25 lieux. Si l'on regarde le profil des trois personnages principaux, comment les caractérisez-vous ?
Alors, il y a pour commencer la tante, donc, dont on raconte l'histoire dans le roman, qui est caractérisée principalement par sa robe à fleurs. C'est le motif auquel on la reconnaît. Ensuite, il y a le neveu, donc le fils de la tante, qui est évidemment plus jeune, qui lui a un rapport très différent à l'histoire de sa mère et à l'héritage de l'histoire de la Shoah et de, voilà, du fait de survivre à la Shoah, puisque c'est la génération d'après. Et ensuite, il y a la fameuse voix, donc la narratrice, ce jeu un peu mystérieux, qui est la sœur de la tante et qui reste anonyme pendant tout le roman.
La sœur aussi, elle reste souvent allongée. Elle bouge très peu à Berlin, ville où elle a été cachée en tant qu'enfant. Elle a eu 13 familles, je crois, qui l'ont cachée. Elle a fui Berlin à certains moments parce que c'était bien trop dangereux. Mais elle se lève rarement aussi, ça c'est émotif, n'est-ce pas ? Elle n'a pas envie de sortir de chez elle quand elle vient visiter sa sœur, qui est la narratrice. On va vous écouter lire un passage du premier chapitre que vous avez traduit.
Je vais essayer de resituer ce que vous racontez ici. Vous pouvez me corriger. Les grands-parents juifs, blancs, allemands, ont émigré et sont devenus américains. Ils ont été enterrés en terre étrangère, le grand-père en dernier, celui qui avait épousé sa bonne, Gertrude, en seconde noce aux États-Unis. C'est comme ça qu'elle a pu profiter d'une maisonnette avec une entrée fleurie de roses à Philadelphie. Cette maisonnette, vos grands-parents maternels avaient, ceux du côté paternel avaient tous disparu, ils avaient pu l'acheter grâce au versement tardif des réparations par la République fédérale d'Allemagne. Vous savez, cela arrive dans beaucoup de familles. Non, pas les réparations. Pour nous, c'était plutôt les compensations. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux parler d'autre chose. Bien sûr, c'est fâcheux, cet héritage qui finit entre les mains des épouses suivantes. Je comprends que, par la suite, vous avez vous-même été écarté par Gertrude. Pas très agréable. Mais croyez-vous que Gertrude, la chrétienne, vous aurait, à vous qui êtes juive ? Il semblerait qu'elle n'ait pas organisé l'enterrement selon la coutume juive. C'est ce qu'a laissé entendre la fille aînée, votre tante Zenta, qui se fait appeler Jessica. Vous ne l'écrivez pas ? Il ne faut pas exagérer, après tout. Une femme n'aime pas les petits-enfants dont elle hérite, voilà tout. Ce qui compte, c'est que votre grand-père et Gertrude se soient bien entendus, et on dirait que cela a été le cas.
Merci pour la lecture. On comprend très bien que la voix anonyme, elle n'a tout simplement pas envie de juger les comportements d'une chrétienne qui fait de ses enfants les bénéficiaires d'un héritage qui n'est pas le sien. Et par-dessus tout, elle refuse même que son mari sera enterré aux côtés de sa première épouse dans le cimetière juif. La tension entre juifs et chrétiens est un thème récurrent du roman, mais il existe également des lignes de séparation entre juifs. Où se situe-t-elle ?
Y a un passage du roman qui résume assez bien les tensions à l'intérieur du monde juif, donc notamment entre la génération de la tante, qui est présentée par son fils comme une closet Jew, donc une juive qui vit sa judéité de manière cachée, qui ne se présente pas du tout comme ça dans l'espace public, et le fameux neveu qui, lui, pour faire honneur à sa mère, essaye de préparer une cérémonie auprès de juifs, enfin dans une communauté de juifs orthodoxes à laquelle il appartient, les Lubavitch. En fait, dans le même passage, est expliqué que la tante a mangé du porc et qu'elle est rendue malade par ce porc qu'elle a ingéré. Et donc il y a le contraste entre la tante qui mange ouvertement du porc et qui en mange même tellement qu'elle en devient malade, et le neveu qui, lui, est dans une représentation extrêmement stricte de la religion, avec une pratique plus intensive et plus, voilà, plus quotidienne.
Très intéressant est aussi le caractère du mari de la sœur, qui était étudiant en art afro-américain, joueur de football américain, militant des droits civiques. Il a travaillé pour la US Navy en Italie et sa mère était de la tribu des Choctaw. Et encore, il chante pour la lutte de libération palestinienne. Donc là aussi, c'est très très complexe, je veux dire, le couple qu'on imagine. Adolescente, la narratrice, elle a rompu tout contact avec son grand-père, qui avait émigré aux États-Unis. Il vivait dans un quartier blanc de Philadelphie. Il évitait les concitoyens noirs et n'était pas contre la guerre du Vietnam, ce qui désespérait vraiment sa petite fille, la narratrice. Et on comprend très bien que c'est Esther. Quelle est l'histoire du titre du roman ?
Donc ce paquet de dollars que la narratrice a au fil des ans, c'est en fait les dollars que le grand-père lui donne à ses visites contre l'avis de la grand-mère qui essaie de l'empêcher de donner de l'argent à ses petits-enfants et qui va ensuite s'approprier l'héritage des petits-enfants juifs. Et donc c'est ce qui lui reste en fait du grand-père, c'est la seule chose qui lui reste quand il meurt, elle a ce paquet de dollars puisque tout le reste de l'héritage a disparu.
Il y a un motif du trop tard dans ce roman, il y a la lettre de dernière volonté non lue, après trois quarts d'an après la mort du grand-père, c'est la petite fille qui n'a pas ouvert cette lettre. Il y a l'histoire de l'enterrement de sa mère, la tombe qui va être, elle sera évacuée.
Oui.
On ne fait même pas l'effort de trouver la famille. Donc là aussi, on arrive trop tard et c'est très très compliqué de trouver un cimetière qui accueille les restes de sa mère et de son mari enterrés ensemble. Ce qui pose aussi des questions sur la pratique des cimetières juifs. Il y a aussi une critique inhérente.
Oui, il y a toute une série de choses qui posent beaucoup de questions sur justement les traces que laisse cet héritage dans le présent, dans l'actualité de la narratrice, qui est confrontée à ce passé qui ressurgit en permanence sous différentes formes, et effectivement cette tombe de la mère pour laquelle il faut trouver un autre lieu pour ses restes. Et puis il y a toutes ces questions de mort, comment est-il possible que quelqu'un qui a survécu à la Shoah puisse mourir d'un cancer du sein? Il y a toutes ces questions-là, et donc en fait, toutes ces interrogations sur le fait d'arriver trop tard ou d'être confronté à la mort ou de cette mort qui ressort, c'est un motif qui montre à quel point il est difficile d'hériter de cette histoire et comment aussi ces supposées réparations ou compensations sont absurdes par rapport à cet héritage qui ressort en permanence et qui continue d'agir même encore aujourd'hui.
Il existe en langue française un grand nombre de romans qui racontent la survie des Juifs en France et les difficultés de l'après-guerre. Je pense au livre de Robert Boubert, Quoi de neuf sur la guerre, ou Berck et Beck. Je pense à la littérature de Patrick Modiano et de Cécile Weisbrot, à La douleur de Marguerite Duras, au livre de Leslie Kaplan, au livre 2009, Russe est mort de Ruth Zilberman, ou encore à La carte postale d'Anne Berest, un livre qui a eu un énorme succès en France. Le thème de la réparation, c'est-à-dire des indemnités forfaitaires pour les injustices subies, et la tension entre les émigrés d'Israël et les juifs de la diaspora, est-ce que ce sont des thèmes qui intéressent les lecteurs français ?
Oui, alors ça, j'en suis assez certaine. La question des réparations, je dirais, reste assez allemande. C'est quelque chose dont on parle moins d'un point de vue concret des sommes qui ont été versées en France, puisque c'est pas la même histoire, évidemment. Mais par contre, toutes ces questions, et particulièrement le rapport entre Israël et la diaspora juive, sont très présentes et l'ont été récemment, d'autant plus depuis le 7 octobre, mais pas que. Enfin, il y a toute une histoire aussi de ces représentations en France qui est très différente de celle qu'il y a en Allemagne. Et donc, je pense que le livre parle de thèmes qui ont un public en France, mais surtout ce qui en fait la particularité, c'est pas tellement la thématique, je dirais, c'est la manière de l'aborder. Voilà, cette manière très caractéristique d'Esther de pas rester dans une narration linéaire, mais de toujours interroger les choses jusqu'au moindre détail, et chaque fait qui est rapporté est tout de suite mis en perspective ou interrogé ou mis en doute, et c'est ça qui fait la particularité du roman.
Actuellement, Alice Lacoulabart, vous êtes encore chercheuse à Berlin, au centre Max Bloch. Vous êtes en train de terminer votre thèse. Si vous l'avez terminée, est-ce que vous allez commencer à chercher une maison d'édition pour le roman d'Esther Dischereit?
Alors, j'aimerais beaucoup présenter ce roman à des maisons d'édition. J'ai déjà fait un essai de traduction et j'ai aussi une présentation du roman. Donc, je vais contacter des maisons d'édition avec ça et j'espère pouvoir le traduire un jour. Ce serait vraiment un très beau projet.
Et c'était la 40e édition de Litter Amour en compagnie de Sigrid Brinkmann et de Alice Lacoulabart. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve dans les mois à venir et d'ici là, vous souhaite de bonnes lectures.